Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Le premier ministre haïtien abdique.
Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité.
Ariel Henry démissionne et lance un appel au calme.
C'est un bon pas dans la bonne direction.
Est-ce assez pour calmer les ardeurs des gangs criminels?
C'est ce qu'on se demande de tout le monde ici.
L'offre va-t-elle répondre à la demande?
Ça brûle en ce moment, là.
On souhaite que le ministre des Finances entende raison.
À quelques heures du dévoilement du budget, Québec veut modérer les attentes.
C'est un budget qui est exigeant et responsable.
Les bras de fer autour d'un grand chantier.
Là, ce qu'on a peur, c'est qu'ils amènent toutes les équipes des grands centres-villes en région. Ça va tuer les régions.
L'opposition s'organise autour de la réforme de l'industrie de la construction. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio Journal. Le premier ministre haïtien Ariel Henry cède aux pressions et accepte de quitter son poste. Le pays est en proie à une flambée de violence inédite. Des postes de police, des prisons, même le palais présidentiel ont été attaqués par des bandes criminelles au cours des derniers jours. Jean-Philippe Robillard est avec nous. La situation, il faut le dire, Jean-Philippe, était devenue intenable pour Ariel Henry.
Oui, parce que la pression, Mathieu, de ses partenaires régionaux, tout comme du gouvernement américain, était devenue trop forte. Ça fait des mois que les dirigeants des pays des Caraïbes souhaitent qu'il démissionne pour tenter de mettre fin à la crise qui secoue Haïti et qui a pris de l'ampleur au cours des dernières semaines avec de nouvelles flambées de violence des bandes criminelles. Alors donc, vous l'avez dit, le premier ministre Ariel Henry qui a accepté de quitter son poste dès qu'un conseil présidentiel de transition sera mis en place et qu'un premier ministre intérimaire sera nommé. Le président de la communauté des Caraïbes se réjouit de cette décision, de l'accord qui a été conclu.
Nous sommes heureux d'annoncer un engagement en faveur d'un accord de gouvernance transitoire qui ouvre la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance et de l'action, à un plan de sécurité à court terme et à la tenue d'élections libres et équitables.
Mathieu, il n'y a pas eu d'élection en Haïti depuis 2016 et depuis que le président Jovenel Moïse a été assassiné il y a 3 ans, c'est une crise là, qui n'a pas cessé de prendre de l'ampleur. Et voici ce qu'a dit Ariel Henry pour justifier sa décision.
Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin de rebâtir institutions démocratiques.
Et Jean-Philippe, Ottawa se félicite de ces derniers développements.
Oui, il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui se réjouit de l'accord qui a été conclu par les Haïtiens lors de la rencontre qui s'est tenue hier en Jamaïque.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Tout le monde veut sa part du gâteau, mais certains risquent de rester sur leur appétit. Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, prévient que le budget qu'il va déposer un peu plus tard cet après-midi repose sur des choix difficiles, mais il refuse de le qualifier d'austère. Je joins Mathieu Goyer, qui est à l'Assemblée nationale. Mathieu, le retour à l'équilibre budgétaire, en tout cas, n'est pas pour tout de suite.
Voilà, avec un ralentissement marqué de l'économie qui réduit les revenus du gouvernement, combiné aux augmentations de salaires consenties aux employés de l'État en santé, en éducation avec les nouvelles conventions collectives, non seulement le déficit sera plus grand, Mathieu, que les 4 milliards de dollars estimés lors de la dernière mise à jour économique, mais le retour à l'équilibre budgétaire pourrait être poussé de 2027 à 2030. Le gouvernement l'indique depuis un certain temps déjà. Ce 6e budget de la CAQ est consacré à la santé et l'éducation, mais laisse peu de marge de manœuvre. D'ailleurs, le ministre des Finances, Éric Girard, assure toutefois que son budget n'en est pas un d'austérité.
C'est un budget qui est exigeant et responsable. C'est un budget qui va refléter le travail que nous réalisons au gouvernement pour favoriser l'accessibilité, la qualité des soins en santé et d'autre part, bien sûr, la réussite éducative des jeunes.
Donc, santé et éducation seront les priorités. Les attentes demeurent aussi élevées dans d'autres secteurs, surtout en raison de l'inflation.
Oui, que ce soit en logement ou en aide alimentaire d'urgence, les besoins sont criants, disent plusieurs organismes. Le Frappru, entre autres, demande au gouvernement de lancer un grand chantier pour construire 50 000 logements sociaux au cours des 5 prochaines années, alors que les banques alimentaires, elles, réclament 30 millions de dollars pour la prochaine année. C'est 6 de plus que l'an dernier. Tout le contenu du budget sera connu à 16 heures.
Merci, Mathieu.
Je vous en prie.
Toujours à Québec, c'est aujourd'hui que la Commission parlementaire sur la réforme de l'industrie de la construction entame ses travaux. Au total, une vingtaine d'organisations vont se faire entendre et le consensus s'annonce difficile à atteindre. Les syndicats et la partie patronale ont parfois des visions diamétralement opposées. Reportage de Pierre-Alexandre Bolduc.
La loi sur l'industrie de la construction n'a pas été modernisée depuis 30 ans. Frappé par l'inflation et une crise du logement sans précédent, le gouvernement veut changer les règles pour améliorer la productivité. Québec souhaite que les travailleurs de l'industrie puissent être mobiles partout en province. Les syndicats sont inquiets. Carl Dufour est le président de la CSD Construction.
Là, ce qu'on a peur, c'est qu'ils amènent toutes les équipes des grands centres-villes en région puis qu'on perde l'expertise en région. Ça va tuer les régions.
Donc, on a une occasion en or de moderniser, de rendre notre industrie plus productive.
Les entrepreneurs voient d'un bon œil les changements proposés. Le décloisonnement des métiers, il y en a 26 dans l'industrie, apportera plus de polyvalence, selon Guillaume Houle de l'Association de la construction du Québec.
Quand on regarde les autres provinces canadiennes, le Québec accuse un retard de près de 8 % sur l'ensemble du Canada en termes de productivité.
Le milieu des affaires souhaite aussi une meilleure inclusion dans l'industrie. Charles Milliard est le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Il y a très peu d'immigrants, que ce soit temporaires ou étrangers, qui font partie de la grande aventure de la construction au Québec.
300 000 personnes travaillent dans le secteur de la construction au Québec. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.
En bref, maintenant au pays. À Ottawa, un comité de la Chambre des communes a décidé de lancer une enquête pour tenter de comprendre pourquoi Luca Rocco Magnotta a été discrètement transféré d'une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne en 2022. Le comité a décidé de faire comparaître 4 témoins, dont la commissaire du service correctionnel du Canada. Luca Rocco Magnotta purge une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre horrible d'un étudiant chinois à Montréal en 2012. En Alberta, l'ex-maire de Calgary, Nahed Nenshi, se lance dans la course à la direction du nouveau Parti démocratique provincial. L'homme de 52 ans souhaite remplacer Rachel Notley, qui a annoncé son départ en janvier après avoir dirigé la province de 2015 à 2019. 6 candidats ont annoncé leur candidature pour la course à la direction du NPD. Le successeur de Rachel Notley sera dévoilé le 22 juin. Et puis au Nouveau-Brunswick, des restes humains ont été découverts hier dans un dépotoir de la région de Fredericton. Les policiers ont ouvert une enquête et demandent l'aide de la population pour en apprendre davantage. Ce n'est pas la première fois que des restes humains sont découverts sur ce site. En octobre 2019, les autorités avaient été appelées sur place pour les mêmes raisons. Au Proche-Orient, maintenant, un porte-parole du Qatar affirme qu'Israël et le Hamas ne sont pas prêts de conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et un peu plus tôt ce matin, et après plusieurs jours d'attente, un premier bateau chargé de nourriture a finalement quitté en direction de la bande de Gaza. Aurélie Girard est avec nous. Le transport de cette aide humanitaire par bateau aujourd'hui, c'est un test essentiellement pour l'ouverture de ce couloir humanitaire maritime afin d'acheminer des vivres vers Gaza.
Oui, voilà. Le bateau transporte 200 tonnes de nourriture, essentiellement de la farine, du riz, des conserves aussi. Le bateau a quitté ce matin le port de Larnaca sur l'île de Chypre. Doit parcourir une distance d'environ 400 km en mer Méditerranée. Le voyage devrait durer une quinzaine d'heures au total, voire plus, là, vu le poids des denrées. Donc, un test, Mathieu, oui, parce que depuis plusieurs semaines, les Gazaouis sont privés d'eau, de nourriture, mais de médicaments aussi. L'ONU affirme d'ailleurs que la famine généralisée est presque inévitable. Vendredi, après 5 mois de conflit, il y a plusieurs pays qui se sont donc mis d'accord pour créer un corridor humanitaire maritime parce que le transport terrestre des vivres qui transite par le poste de Rafah, qui lui est contrôlé par Israël, demeure largement insuffisant.
Et en parallèle, on attend toujours cette construction d'un port maritime.
C'est exact, oui. Les États-Unis ont annoncé jeudi la construction d'un port maritime au large de la bande de Gaza pour justement acheminer de l'aide humanitaire. Samedi, les autorités américaines ont confirmé l'envoi d'un premier navire avec le matériel nécessaire pour construire la jetée. Une jetée qui prendrait, là, par ailleurs, plus de 2 mois à construire, d'après la Maison-Blanche.
Merci, Aurélie.
Au plaisir.
Maintenant, aux États-Unis, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, ce sont les électeurs de la Géorgie, du Mississippi, de l'État de Washington et d'Hawaï qui vont se prononcer sur le candidat qu'ils souhaitent voir à l'élection présidentielle de novembre. Le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump semblent se diriger sans obstacle vers la victoire dans leurs partis respectifs. En terminant, Il était l'auteur de cette chanson « Hungry Eyes » que vous connaissez certainement si vous avez vu le film « Dirty Dancing ». L'auteur, compositeur, interprète américain Eric Carmen est mort à l'âge de 74 ans. Il s'est éteint dans son sommeil. Il était le chanteur du groupe The Raspberries avant d'entreprendre une carrière solo au milieu des années 70. Un de ses plus grands succès, la chanson « All by Myself » a d'ailleurs été repris par Céline Dion. Voilà pour cette édition du Radio-Journal. On va se laisser ce matin justement avec « Hungry Eyes ». Bonne journée, bon mardi.
Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture « Les Gourlidaires de Schoenberg » dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.